Dans cette optique, l'apprentissage de la décharge émotionnelle, de la libération de nos émotions sous forme d'action physique et de technique pour extérioriser nos émotions est essentiel dans les moyens de prévention du cancer. Il n'y a pas non plus que les éléments émotionnels qui jouent leur rôle, il y a aussi bien évidemment les éléments mentaux et les éléments spirituels. Passons rapidement sur les éléments mentaux. Le point capital que l'on trouve dans la genèse de ce genre d'affection au niveau mental, c'est la croyance dans des idées reçues. C'est l'immobilisation mentale, c'est le fait de répéter ce qu'on a appris 5, 10, 15 ou 25 ans avant. Parce que la vie est un perpétuel changement et dans la mesure où nous ne changeons pas nos idées, nous ne sommes pas ouverts à des hypothèses différentes, eh bien nous nous sclérosons mentalement et cette rigidification dans notre mental ne permet plus à notre organisme de fonctionner avec vivacité. C'est pour ça que les enfants qui n'ont pas encore acquis ces espèces d'idées reçues ont une mobilité, une vitalité beaucoup plus grande et leur vitalité permet à leur résistance de constamment régler les problèmes qui se présentent sous forme de maladies aiguës par exemple ou de difficultés de toutes sortes plutôt que d'accumuler peu à peu des problèmes non résolus. Et puis il y a cette idée reçue que ce qui se passe dans notre corps ne nous concerne pas ou que nous ne pouvons pas faire grand-chose et que seul le spécialiste va pouvoir s'occuper de notre corps. Nous avons cette notion naturelle que pour ce qui concerne notre voiture, nous avons des choses à faire, des entretiens, des vidanges, etc. Mais pour notre corps, ces idées se sont un peu perdues. Et puis nous attendons en quelque sorte que ça casse et quand quelque chose casse, nous nous sentons impuissants et ceci nous a inculqué dès la prime enfance et nous pensons que seul le spécialiste de la maladie va pouvoir faire quelque chose pour notre corps. Comme le disait Gérard Briche, qui est un Français rédacteur de L'Impatient, une revue d'information des consommateurs médicaux, et qui est un homme qui a décrit son expérience d'une façon tout à fait étonnante dans un livre intitulé « Furiculum vitae », qui raconte sa vie de malade chronique, ayant souffert d'une affection grave pendant une quinzaine d'années, ayant passé plus de 2 ans en hôpital. Et il donne dans les conclusions de ce livre, qui est un vrai roman à la Céline, on dirait le voyage au bout de la nuit, c'est-à-dire qu'il décrit par le menu toute cette vie de l'hôpital, et il dit ceci. Reconnaître un début, un semblant de participation du malade à son traitement, ce serait en effet admettre que le malade est capable tout seul, d'une quelconque manière, d'intervenir dans sa guérison ou son amélioration. Or, cela relève encore pour l'ensemble des médecins et la majorité des patients qui les croient sur parole de l'aberration mentale. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que lorsqu'ils sont malades, ce n'est pas leur faute et ils ne peuvent rien faire. Il faut que quelqu'un leur dise ce qu'ils doivent faire et ils pensent qu'il faut simplement qu'ils fassent une confiance aveugle aux spécialistes et puis qu'eux n'ont rien à faire là-dedans. Quand il sera admis, dit-il, que les malades ont une part de responsabilité dans leur maladie, on admettra l'idée nouvelle que l'homme peut prendre la responsabilité de sa santé et de sa guérison. En fait, c'est cette notion que l'on découvre maintenant. Dans le cadre de la Fondation Soleil, nous parlons de cela depuis 10 ans, mais ce n'est que maintenant qu'on ose, je dirais, amener ces notions aussi ouvertement sur la table, parce que maintenant, dans le public, elles passent. C'est cette notion de la responsabilité individuelle. Que la maladie n'est pas quelque chose qui survient comme ça par hasard, mais qu'elle est le résultat de notre mode de vie, que par conséquent, nous avons quelque chose à faire là-dedans. Alors, ça ne signifie pas que nous devions tout faire tout seul au niveau de nous rééquilibrer ou de faire de la prévention, mais cela signifie que nous avons un rôle à jouer. Et pour la première fois d'ailleurs, il s'est ouvert, inauguré par le prince Charles d'Angleterre récemment, un hôpital où, justement dans le traitement du cancer, on part du principe que le patient participe au choix des méthodes thérapeutiques qui lui semblent être utiles pour lui. C'est ce que la médecine holistique et cette médecine de l'homme entier, où on ne considère plus que le corps physique, mais toutes les facettes de l'être humain, a dégagé aux États-Unis avec quelques postulats qui sont ceux-ci. C'est que l'homme existe en tant que corps, mais également en tant que psychisme, que vie émotionnelle, que vie mentale et qu'être spirituel. Et qu'il faut donc tenir compte de la totalité de l'être humain. Que deuxièmement, le patient doit faire partie de l'équipe qui prend les décisions. Et non pas être seulement un patient, Le mot patient dit bien ce qu'il veut dire. On subit patiemment, mais on ne se sent pas concerné. C'est un peu comme si on disait « oui, mon corps, ce n'est pas mon affaire. Je le remets à un spécialiste et puis qu'il fasse ce qu'il faut. » Et ce genre de concept dans notre société a entraîné une terrible dépendance devant les problèmes qui nous arrivent. Dès que nous avons la moindre fièvre, le moindre petit problème, nous nous en remettons à quelqu'un d'autre parce que nous avons perdu la notion de ce que nous pouvions faire nous-mêmes. Et ceci n'est pas si anodin qu'on croit, parce que la fièvre, par exemple, est l'un des mécanismes anticancéreux les plus précieux que le corps utilise. Lorsqu'il y a un petit peu trop de cancer qui se développe à gauche, à droite, l'organisme va faire une bonne maladie aiguë avec une bonne fièvre. Et la fièvre brûle tout. C'est un nettoyage tout à fait intelligent. Mais que se passe-t-il dans notre société, ou que se passait-il, parce que peu à peu, heureusement, ces choses changent? Eh bien, on appelle un médecin qui agit contre les symptômes, qui donne de l'aspirine, un fébrifuge, la fièvre tombe, mais l'organisme a été tronqué, a été bloqué dans son processus d'élimination. Et il est probable que des techniques, justement, comme l'intervention thérapeutique sur les affections bénignes, comme l'excès d'antibiotiques, l'excès de fébrifuges, l'excès de calmants de toutes sortes, de toutes ces substances que l'on donne pour étouffer les symptômes, jouent un rôle capital dans l'apparition de ces maladies de civilisation que sont le cancer et les autres affections dégénératives. Le fait, chaque fois que quelque chose arrive, plutôt que d'aller aux causes, de simplement couper les symptômes, n'est pas anodin. Et puis, dans le troisième postulat de cette médecine holistique, est le fait de dire que le malade, ou le patient, ou la personne en bonne santé, sont des individus totalement différents et uniques. Il n'y a pas deux êtres humains qui soient les mêmes. Et c'est l'un des drames de notre société que d'avoir normalisé tout. C'est un petit peu ce qu'on a fait en médecine, un peu comme si un marchand de chaussures décidait que la pointure moyenne dans la population, c'est disons le 39. Et qu'on ne faisait plus que des chaussures en 39. Eh bien, c'est ce qu'on fait en thérapeutique. On décide que parce qu'une personne a une maladie, il faut lui donner le traitement qu'on donne dans cette maladie. Mais on ne traite pas les malades dans cette optique, on traite les maladies. Et ce genre de mesures, toutes les mêmes, ce genre de mesures normalisatrices, entraînent tout un certain nombre d'habitudes qui font que l'on fait comme tout le monde au lieu de faire comme on devrait faire pour soi. Parce qu'on peut donner des principes généraux au niveau du mode de vie, on peut dire l'excès de viande, l'excès de cigarettes, mais après l'application c'est très individuel. Il y a des gens qui supportent plus que d'autres. Le maçon qui chante et qui bouge beaucoup va supporter une quantité de gros rouges qui tâchent beaucoup plus grande que le sédentaire. Inversement, la personne qui exprime bien ses émotions, le colérique peut supporter de manger beaucoup plus que la personne qui se ronge toute la journée, etc. Donc il y a dans notre équilibre des facteurs individuels dont il faut apprendre à tenir compte. Et puis surtout, chaque patient, chaque personne a des capacités d'auto-guérison. Et c'est ce que nous avons beaucoup oublié, c'est le fait que notre organisme n'est pas notre ennemi, mais qu'il est toujours en train de faire le maximum pour se remettre d'aplomb. Et il faut que nous nous donnions énormément de peine, que nous luttions contre lui pendant des années pour arriver à tomber malade. Parce que ce n'est pas du tout naturel d'être malade. Ce qui est naturel pour un organisme, c'est de fonctionner parfaitement, c'est d'aller bien. Et pour être malade, nous devons vivre à contre-courant, nous devons vivre contre notre propre nature, nous devons nous mettre dans des normes qui ne nous correspondent pas pendant de nombreuses années. Norman Cousins, qui est un Américain ayant vécu une expérience intéressante dans un domaine proche du cancer, c'était un journaliste très connu, et il s'est trouvé un jour dans un hôpital avec une affection dégénérative grave, un rhumatisme, et puis chaque mois ça allait plus mal, on augmentait les doses de cortisone, puis un jour il s'est dit, mais non, d'une pipe, personne n'a l'air de considérer que moi j'ai pas du tout envie d'aboutir dans la chaise roulante. Tout le monde autour de lui parlait de ça comme une chose tout à fait naturelle. Oui, c'est un type de rhumatisme, voilà le pronostic, enfin, vous voyez le genre. Et un jour il a décidé de s'en sortir, et pour ça il est sorti de l'hôpital, il s'est mis dans une chambre d'hôtel, et il s'est soigné uniquement par le rire. Vous avez peut-être lu cette expérience qui était décrite dans un très joli petit livre appelé « La volonté de guérir » où il s'est aperçu que quand il riait, il allait mieux, ses douleurs diminuaient et qu'au lieu de prendre la morphine ou de la cortisone, il pouvait rire et quand il riait, il faisait sa propre thérapie. Et grâce au rire, il s'est guéri et il a écrit un livre qui a fait rire toute l'Amérique et qui lui a valu d'être le premier Américain non-médecin nommé professeur dans une faculté de médecine où il enseigne justement toutes ces choses simples par lesquels on peut apprendre à se prendre en main et à maintenir son équilibre. Et il disait très joliment, la mort n'est pas la suprême tragédie de la vie, la suprême tragédie, c'est la dépersonnalisation. Et c'est cela que la vie en société, avec ses éléments normatifs, avec ses moules, nous fait vivre, la dépersonnalisation. Nous perdons le contact avec ce qui fait que nous sommes un individu unique. Nous cessons d'être nous-mêmes et nous nous mettons à ressembler aux autres. Nous entrons dans la comparaison, il faut être comme les autres, il faut être, etc. Le premier de classe, enfin, ce système de compétition nous fait vivre constamment en désaccord avec nous-mêmes, parce que nous n'acceptons pas d'être comme nous sommes. Du coup, nous nous jugeons, nous nous sentons coupables, nous sommes haineux envers nous-mêmes, et ceci émotionnellement et mentalement finit par créer des troubles importants dans notre organisme. Et par conséquent, l'apprentissage de la santé, ce n'est pas de trouver un traitement miracle qui va faire disparaître les symptômes ou enlever les tumeurs, mais c'est d'apprendre à vivre autrement. C'est d'apprendre à changer ces conditions de vie qui ont entraîné l'apparition de la maladie. C'est tellement évident, le bon sens parle tellement quand on pense à cela, que l'on se demande comment on a pu tellement oublier cela. Et comme le disait il y a peu de temps un rapport de l'OMS, il existe en médecine et en santé publique beaucoup de bonnes choses que l'on applique couramment sans qu'elles aient été éprouvées par des essais à double anonymat, mais simplement parce qu'elles découlent du bon sens. Et c'est ce bon sens et ces éléments simples de santé qui nous permettent peu à peu d'apprendre à nous équilibrer et à faire notre prévention, à nous occuper de nous-mêmes avant que la maladie ne soit là. La preuve d'ailleurs de l'efficacité de ces moyens naturels, de ces moyens simples, soit comme thérapie des affections cancéreuses, soit comme soutien à des thérapies classiques comme la chirurgie ou autre, est donnée par toute une littérature qui montre que bien des gens ont pu faire l'expérience, même s'ils n'ont pas pu faire des études à double aveugle, ont pu faire des expériences montrant que l'on peut améliorer sa condition par des moyens naturels. Et comme le disait récemment le docteur Rueff dans un livre sur la question intitulée « Choisir la vie », le docteur Rueff est un cancérologue, mais qui s'est peu à peu ouvert à cette conception de ne pas traiter que les tumeurs, mais de traiter le terrain, de s'occuper de l'ensemble de l'individu. Et il dit « Aucune thérapeutique n'est à rejeter a priori, soit du fait de son agressivité ou de sa spécificité, soit qu'elle s'adresserait exclusivement au terrain ou qu'elle traiterait un déséquilibre apparemment secondaire. » Il s'agit de comprendre qu'en cancérologie, plus qu'ailleurs, la précipitation est toujours mauvaise conseillère. Et que dans une stratégie intelligente, soit préventive, soit thérapeutique, il faut tenir compte de tout. Il faut tenir compte de la maladie, mais il faut aussi tenir compte du malade. Il faut tenir compte du symptôme, mais il faut aussi tenir compte de tout ce qui va avec, au niveau des habitudes, au niveau de la vie émotionnelle, au niveau de la vie mentale, et également au niveau de la vie spirituelle. La vie spirituelle, on peut dire que c'est le fait de sentir que nous sommes reliés en quelque sorte à plus que notre vie pratique, physique, mais que nous avons quelque chose à voir avec l'aventure humaine ou avec le cosmos. Là, chacun peut utiliser les mots qu'il veut, mais c'est le fait d'avoir un sens dans sa vie. Et il est certain que lorsque des gens ont un sens dans leur vie, peu importe lequel, eh bien, ils sont pratiquement indemnisés contre les affections de type cancéreux. C'est ce que l'on voit souvent dans les épidémies. Vous savez, les gens qui soignent les autres ne sont pas malades parce qu'ils ont un but et que ce but leur permet de développer et de maintenir une résistance extraordinaire. Vous savez qu'une mère, c'est un exemple qui était souvent rapporté, lorsqu'elle voit son enfant sous un camion, elle peut tout d'un coup, parce qu'elle oublie tout et qu'il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est de sortir l'enfant de là, lever le camion, ce qui est théoriquement impossible, parce qu'elle mobilise tout d'un coup une énergie beaucoup plus grande que son énergie physique. Et ceci explique tout ce qu'on appelle les miracles ou ces changements importants. Lorsque quelqu'un prend conscience des raisons fondamentales de désarroi intérieur qui l'ont amené à une maladie comme le cancer, il peut aussi modifier la situation. Mais ceci n'entre pas, bien sûr, dans le cadre de statistiques ou d'essais à double aveugle. Ceci, c'est simplement la compréhension que l'être humain ne peut pas être privé de sa dimension spirituelle. Il y a par exemple de plus en plus maintenant aux États-Unis, dans ce qu'on appelle le mouvement de psychologie transpersonnelle, le développement de méthodes et de techniques dans lesquelles, au lieu de refuser les crises, on apprend à les affronter, on apprend à se voir soi-même en face des grands problèmes de la vie et à ne plus éliminer les problèmes, à ne plus les cacher dans un coin en quelque sorte. Et ce genre d'optiques sont précieuses pour agir globalement, pour agir à tous les niveaux. Comme disait Hippocrate, il ne s'agit de rien de plus que chacun ait présent à l'esprit ce qui se passe en lui. C'est-à-dire qu'en devenant attentif à ce qui se passe en nous, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, nous pouvons peu à peu apprendre à créer une harmonie avec nous-mêmes, à créer une bonne relation avec nous-mêmes. Et au lieu de nous détester à longueur de journée en pensant qu'on devrait être plus ceci ou moins cela comme nos parents nous l'ont appris, eh bien on commence à devenir amical avec soi-même, on commence à se traiter mieux. Dit d'une autre façon, c'est toujours le fait de se maltraiter qui fait que notre organisme ne peut plus travailler correctement. Si l'on se traite bien, si l'on ne met pas des chaussures comme celles que vous avez vues tout à l'heure, si l'on prend des moments pour soi, si l'on prend des moments pour manger autrement qu'à la cantine et à toute vitesse, si l'on apprend à se régénérer, à bien se traiter, eh bien notre corps nous le rend au centuple parce qu'il fait sa rééquilibration, il fait ce qu'il a besoin de faire. Comme le disait le docteur Schweitzer, auquel un journaliste demandait pourquoi il avait de si bonnes relations avec le sorcier du coin, un sorcier africain couleur locale, Schweitzer lui répondit qu'il lui demandait de divulguer un secret bien gardé par les médecins depuis Hippocrate, mais je vais tout de même vous le dire, poursuivit-il, le visage illuminé par son demi-sourire. Le succès du sorcier est dû à la même raison que notre succès à nous. Tout malade porte son propre médecin à l'intérieur de lui-même. Il vient chez nous parce qu'il ignore cette vérité. Ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de donner une chance d'agir au médecin qui réside à l'intérieur de chacun. Comme le disait René Dubos, un grand chercheur français qui est aux États-Unis, la médecine devrait abandonner l'idée que l'être humain est si fragile qu'il nécessite sans cesse le recours à des médicaments ou à des traitements. Ce qu'il faut, c'est apprendre à reconnaître les potentialités de la nature humaine. En comprenant que chaque individu est unique et qu'il est différent et que sa santé, c'est son affaire, c'est à lui d'apprendre à la faire, eh bien on comprend que dans cette optique-là, la prévention d'affections comme le cancer est une entreprise tout à fait facile. Alors que le fait de ne rien faire et d'attendre que le cancer soit là nous met dans une situation beaucoup plus difficile. Je vous ai donné quelques idées un peu en vrac, si vous voulez, sur ce sujet. Je pense que vous avez certainement quelques questions qui vont permettre de réajuster quelques-uns des éléments que je vous ai apportés. Je vous écoute. Oui, madame. Oui. C'est un sujet très intéressant parce que, justement, le cancer de l'âge adulte peut être compris par cette optique du mode de vie qui peu à peu entraîne cela. Pour comprendre le cancer chez un tout jeune enfant, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est de changer l'optique que l'on a par rapport à la vie. Il n'y en a pas d'autre. Dans beaucoup de sociétés où l'on estime que la vie n'est qu'un épisode parmi d'autres, parmi une aventure plus grande, si vous voulez, on ne voit pas la vie comme quelque chose d'unique, mais on conçoit la vie comme nous concevons une année parmi d'autres années. Un enfant n'a pas encore cette conception. Eh bien, dans les sociétés où les gens ont ce genre de notion, ils peuvent admettre comme une hypothèse, mais que peut-être que quelque chose qui s'est passé avant entraînait cette situation-là. Lorsque l'on raisonne avec la vie au niveau d'une seule vie, eh bien, ce genre de situations sont totalement impossibles à comprendre. Et l'on ne peut qu'être révolté contre le genre d'éducation que l'on a eu dans notre bonne cité calviniste comme dans bien d'autres, où on nous dit que Dieu est amour et on voit mourir des enfants. Comment concilier ces deux choses-là? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, et c'est ce que de plus en plus de gens font maintenant dans ces techniques justement de psychologie transpersonnelle, c'est d'élargir le concept que nous avons de la vie. Alors, de quelle façon on le fait, comment ceci, ça c'est une aventure individuelle, mais tous les gens qui travaillent là-dessus, les psychologues, si vous voulez, il y a eu l'époque où on considérait que l'être humain avait sa mémoire qui n'allait que jusqu'à la petite enfance. Ça, c'était le temps de Freud, et on a découvert que les problèmes qu'on pouvait avoir remontaient à des traumatismes de la petite enfance, qu'on n'admettait pas du tout avant. Et puis beaucoup de psychologues, de psychiatres qui ont commencé à explorer ça, se sont tout d'un coup trouvés confrontés à des phénomènes inexplicables dans leur concept, à savoir que les gens leur décrivaient leur naissance et décrivaient les choses qui se passaient avant. Il y a toute une littérature là-dessus, et c'est un concept maintenant dans les universités américaines qui n'est presque plus discuté. Le fait que la vie n'est pas toute la vie, mais qu'il se passe des choses avant, qu'il se passe des choses après. Il y a aussi toute une littérature qui a montré que des gens ont pu faire l'expérience de mourir et de revenir, qui sont décrites toutes sortes de choses très intéressantes. Je n'entre pas plus dans ce vaste sujet, sinon pour dire que c'est un sujet intéressant parce qu'il montre que nous ne pouvons pas, avec les concepts avec lesquels nous avons été éduqués résout des problèmes comme celui-là. Ils ne peuvent engendrer qu'une grande révolte devant l'injustice fondamentale de la vie. Mais pour un oriental, par exemple, n'oubliez pas que 3 hommes sur 5, c'est quand même beaucoup, pensent que la vie est un phénomène continu qui dure de vie en vie et qu'il n'y a pas qu'une seule vie. Eh bien, pour ces 3 hommes sur 5, le phénomène est beaucoup plus compréhensible que pour ces braves occidentaux qui pensent qu'il n'y a qu'une vie. Il y avait même une époque, c'est assez amusant de savoir cela, où il y avait toutes sortes d'écrits dans ce qui a donné plus tard la Bible sur cette vie après la vie. C'est bien grâce à ce genre de concept que des gens acceptaient de se faire manger par des lions en sifflotant, parce qu'ils ne pensaient pas que la mort était un événement dramatique. Ils pensaient que la mort était une aventure de la vie, mais que la vie continuait. Et puis, à un moment donné, au concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, la jeune église institutionnelle a décidé de supprimer tous les écrits qui concernaient la vie dans l'au-delà, ou etc. Et on est arrivé avec une religion et toute une société dans laquelle on a une peur bleue de la mort, parce qu'on croit que la mort est une fin. Mais dans les sociétés où les gens ne considèrent pas la mort comme une fin, mais comme une transition vers autre chose, eh bien on n'a pas la peur de la mort et on a beaucoup moins d'affections comme le cancer. Je vous ai répondu sommairement.